Mehdi Benassia, t'en a parlé tout à l'heure, c'est encore ton grand pote, évidemment. Lui, parfois, il dit, bon, c'est génial mon expérience, mais c'est fou. C'est Marseille, c'est particulier. Tu dis dans le documentaire, il y a que Marseille, il y a que Naples aussi peut-être, ouais, qui peut faire comme Marseille en termes d'environnement et de pression. Tu devrais toi bosser à Marseille, à l'OM un jour.
Ouais, mon rêve absolu, ce serait un jour d'être sur le banc de l'Olympique de Marseille, oui. Mais je sais aussi que peut-être à ce moment-là, j'ai pas de problème au niveau des cheveux, mais peut-être qu'à ce moment-là, j'aurai peut-être une calvitie qui va commencer à arriver, parce que l'engouement, la pression et compagnie, c'est beaucoup à Marseille.
Ça donne quand même envie, quoi, malgré l'environnement, la pression énorme,
malgré
les coups
malgré
tu peux prendre aussi, malgré la semaine qu'on vit encore. Quand tout va bien, ça va pas en fait. C'est ça qui est fou.
Non, c'est vrai, mais après c'est comme ça. C'est Marseille.
C'est Marseille, bébé.
C'est des excès, c'est comme ça. Que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est toujours comme ça.
Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où alors c'était Jacques-Henri Hérault qui disait qu'il faut enlever des supporters marseillais des bureaux, etc., pour qu'il y ait moins de passion. Bon, je suis pas forcément d'accord avec ça, mais je vois ce qu'il voulait dire quand même. Là, bon, t'as un ancien Marseillais, t'as un Pablo Longoria qui est pas Marseillais, mais qui est complètement possédé le jour des matchs. T'as un entraîneur aussi, moi j'apprécie, mais qui est possédé aussi. Tu vois, on dit qu'il faut pas rajouter de l'huile sur le feu. Pape Diouf, pour le coup, c'était quelqu'un qui était très calme. Tu vois, qui avait ce calme, cette prestance, sa voix.
Une sagesse aussi.
Ouais, ouais, voilà, c'est ce que je te dis. C'est cette voix, ce ton posé, ce vocabulaire qui faisait qu'il prenait de la distance. Et c'est peut-être la plus belle période de Marseille que moi, en tout cas, j'ai vue, comme tu disais, avec cette équipe dont tu as fait partie. Des fois, on se demande quand même s'il ne faut pas des gars un peu plus calmes. Même si Mehdi Benassia, il semble calme, mais est-ce que c'est un faux calme? Possible.
Et Samir.
C'est vrai ce que tu dis. Mais le problème, c'est, je pense, que si tu n'as pas un entraîneur qui est volcanique et qui a le tempérament à Marseille, il ne sera pas accepté par les supporters. Si on regarde sur les dernières années, les entraîneurs qui ont eu du succès auprès du public, c'est Marcelo Bielsa, qui est complètement décalé, en décalé total. Et là, aujourd'hui, De Zerbi, on va dire...
Sampaoli,
mais Sampaoli, c'est pareil. Tudor aussi, c'est pareil. Ils ont eu Marcelino et ils l'ont dégagé directement, alors qu'il est en train de réaliser un travail monstrueux à Villarreal. Mais c'est un mec qui est en fait trop calme, trop plat en fait, pour l'environnement marseillais.
Sur ton rôle de consultant, tu kiffes ta vie aujourd'hui?
Ouais, moi je kiffe. Je kiffe aussi parce que ça me permet de jongler entre ma vie professionnelle et ma vie privée. Moi j'ai mon fils qui est installé qui est à Dubaï. Ça me permet aussi de voyager, d'être là-bas. C'est pour ça que j'ai pas commencé encore à passer mes diplômes, parce que je sais que si je deviens entraîneur, il y a plus de vie en fait privée ou personnelle. C'est le foot. Et moi, quand je me mets dans quelque chose, je suis quelqu'un d'entêté et je me mets à fond les ballons. Donc c'est pour ça que je prends le temps un petit peu.
Quand tu dis quand je me lance dans quelque chose, je vais à fond. Aujourd'hui, dans ton rôle de consultant, tu fais partie quand même des références. Tout le monde parle de toi en bien. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui des consultants dans les médias? Parce qu'il y a beaucoup de débats là-dessus, éditorialistes, consultants, avec les nouvelles chaînes, etc.
Tu veux dire quoi par là? Est-ce qu'ils sont assez francs?
Qu'est-ce que tu penses de la profession des consultants? Parce qu'on parle beaucoup de bien...
Des consultants anciens joueurs ou de toute la profession?
Non, consultants anciens joueurs. Ancien joueur,
je peux parler de tout.
Non, mais ancien joueur, parce que
en gros, est-ce qu'il faut avoir joué pour
tu dis quoi, est-ce que tu, voilà, c'est ça la question que tu posais. Oui, est-ce qu'il faut avoir été un ancien joueur de haut niveau pour être un bon consultant, pour moi non,
je préfère un passionné qui regarde 20 matchs par semaine plutôt qu'un ancien joueur qui regarde pas du tout le foot.
Un Walid par exemple.
Ouais, je préfère un Walid qu'un consultant qui surfe un petit peu sur sa carrière et qui regarde pas de foot, qui ne suit pas l'actualité, qui ne suit pas l'évolution du football. Le football d'il y a 20 ans, c'est plus le football d'aujourd'hui. Il faut suivre son époque. Et si j'ai un conseil à donner aux consultants, regardez des matchs surtout. Pour qu'au moins, quand vous parlez de certains sujets, ben vous maîtrisez un petit peu.
C'est quoi la différence entre le football d'il y a 20 ans, la plus grosse différence entre le football d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui?
Moi, je trouve qu'aujourd'hui, le football, il s'est uniformisé, que tous les entraîneurs essayent de jouer de la manière de Pep Guardiola parce qu'ils ont vu que c'était la manière qui gagnait. Pour moi, il y a ce que j'aimais d'il y a 20 ans, c'était un petit peu le choc des cultures de chaque entraîneur. Tu avais un Portugais, il a amené son côté tactique, par exemple. L'Espagnol, il a porté son côté technique. L'Anglais, ben, c'était un jeu plus direct. Quand on jouait, j'ai joué à, par exemple à Bolton, Sam Allardyce, c'était des longs ballons, mais tu savais que tu allais souffrir. Tu n'étais pas sûr de gagner en posant le jeu et en jouant. Moi, j'aimais beaucoup ça. Je trouve aussi beaucoup plus de créativité et d'instinct chez les joueurs offensifs. Aujourd'hui, on sait que toutes les équipes, elles essayent d'avoir 5 joueurs offensifs pour créer un décalage avec les cadres. Il y a beaucoup de possession autour de la surface. Je trouve qu'il y a un peu moins d'engagement de la part des joueurs et tous les joueurs se ressemblent un peu dans la même position. C'est tous les mêmes. Je trouve que c'est ça la différence. Et je trouve qu'avant aussi, il y a 20 ans, même pas moi, ma génération, mais même un petit peu avant, il y avait beaucoup plus de grands joueurs qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, dès qu'il y a un joueur un petit peu technique et grand joueur, de suite, il sort du lot et on en fait. À l'époque, tu regardes le Ballon d'Or des années 90 à 2000, chaque année, c'est un nouveau. Il n'y en a pas un qui a fait un doublé, un triplé ou quoi que ce soit.
Samir Nasri était avec nous dans Génération After, on se régale. Merci d'être avec nous. Tu restes encore quelques minutes.
Ah, c'est bon, là, c'est pied droit, pied gauche.
Dans Génération After.
Il peut rester 2h30. Hein.
Il y a eu un gros débat tout à l'heure sur le chat. Attendez, les gars, on a souvent dit que c'était Ben Arfa, le plus grand génie de technique en France. Mais Samir Nasri était-il pas supérieur à Ben Arfa? T'en penses quoi, toi?
C'est différent.
C'est différent.
Totalement différent.
Technique différente.
Plus dans la passe, Atem plus dans l'élimination à un contre un.
Ah oui, parce qu'en fait, et c'est ça le vrai problème dans le football, et tu parles des différentes générations, et c'est ce que j'appelle, moi, le comment dire, pour pas être trop dur, mais je vais pas dire le scandale, mais le gros problème avec les highlights, notamment sur, tu sais, maintenant, il y a les fameuses vidéos.
Les compiles.
2 minutes 30 de Ryan Cherki.
Ça l'énerve, ça.
2 minutes 30 Noah Lang. De Noah Lang. Ah ouais, Noah Lang. Hein.
Non, partons pas sur Noah Lang.
Pourtant, c'est un néerlandais. 2 minutes 30. Le gars, il te fait. Ou alors, la dernière vidéo d'Mbappé, la sortie par le Real ou par la Liga. Le mec, il fait double passement de jambe, il perd la balle. Ouah, Kylian Mbappé.
C'est un problème, ça prend d'éducation aussi, parce que les gamins aujourd'hui,
ça me rend dingue.
Beaucoup de gamins s'émerveillent devant ça. Non, mais ça me rend dingue.
Pourquoi l'Espagne attends, on a encore 30 secondes.
Non, c'est fini. Regarde, c'est fini. Il est fou, lui.
Pourquoi l'Espagne
Ça fait 5 ans que t'es là, tu vois pas le finish là-haut.
58 ans qu'il a et qu'on
pas. Pourquoi l'Espagne, elle est la population footballistique la plus technique? C'est pas des dribbleurs, c'est qu'ils vont te faire. C'est ce que Guardiola, le Barça, l'Ajax, ils vont te faire le là, tu vois, entre toi et Walid, sur le pied droit, parce que le but est là-bas. Ça, c'est une passe très technique dans la course, dans le bon tempo, dans le bon timing. Est-ce que le terrain il est mouillé? Est-ce qu'il n'est pas mouillé? Est-ce qu'il est sec? Est-ce que je dois appuyer? Mais c'est pas deux passements de jambes et la touche d'après, la passe, elle est en touche. C'est ça que je comprends. Donc, Atem Ben Arfa, excellent dribbleur. Peut-être même bon passeur. Et puis après, Benzema, très bon finisseur. Menez, dribbleur. Nasri, plutôt passeur. Fabregas, uniquement passeur, il va à deux à l'heure, mais peut-être meilleur passeur de l'histoire de la Première Ligue. Voilà, c'est chaque joueur a ses caractéristiques.
On a gratté encore 10 minutes avec toi, Samir. On a négocié. Reste avec nous, Samir Nasri, Kevin Diaz, vous êtes déjà chaud dans un instant. Tiens, il y a des appels au 32-16.
Il est lancé, Kevin.
On va vous donner la parole. On va parler de la liste de Deschamps aussi rapidement avec toi. Reste avec nous, Génération After RMC, 21h27.